Bonjour Mathieu Orphelin.
Bonjour à vous.
Emmanuel Macron a fait savoir hier que la France accueillerait une partie des migrants qui se trouvent à bord du navire humanitaire Lifeline, bloqué au large de Malte. Finalement, c'est un peu le même scénario qu'avec l'Aquarius. La France n'accueille pas le bateau, et puis on dit qu'on accueillera une partie des migrants, comme si on était pris de scrupules ou de remords.
Moi, je le vois pas de cette manière-là. Je pense qu'il y a une différence entre l'arrivée de ces deux bateaux. Et que là, on est dans une réponse globale, européenne, avec
Elle n'est
cette
pas globale.
répartition.
C'est un
Non.
accord. Ce sont des accords bilatéraux,
Des
plusieurs.
accords bilatéraux, mais qui impliquent 5 pays. Donc là, je pense qu'on est dans une réponse qui pourrait préfigurer ce que c'est qu'une nouvelle mobilisation de l'Europe, une nouvelle solidarité entre pays qui accueillent. Moi, je trouve que, effectivement, là, on entrevoit la voie d'une nouvelle façon d'appréhender ces arrivées de bateaux. Et je trouve que là, il y a une nouvelle voie qui peut être une solution à cette sortie de crise.
Cette annonce d'Emmanuel Macron est intervenue après sa rencontre avec le pape. Est-ce qu'on peut imaginer que ce soit le souverain pontife qui lui ait soufflé ce conseil de générosité?
Non, je pense pas. De toute façon, il faut
On
accueillir.
sait que le pape est sur cette ligne.
Mais oui, non, mais ce qui est important dans ces échanges avec le pape, c'est de pouvoir aborder un certain nombre de grands enjeux, les migrations, le changement climatique, tous ces thèmes qui, évidemment, sont très importants. Mais voilà, je crois que on n'est pas dans une relation où le pape donnerait des conseils à des chefs d'État.
Il a dit, Emmanuel Macron, un dirigeant, un chef d'État est là pour protéger les plus pauvres, par exemple. Je ne sais pas comment vous avez entendu cette phrase. Est-ce que Emmanuel Macron doit le prendre personnellement?
Non, mais je crois qu'il faut dépasser, enfin, ces analyses personnelles. Moi, je crois que on a aujourd'hui un vrai défi, répondre à ces enjeux de migration. L'Europe, l'Afrique, le monde est lié aujourd'hui par tous ces enjeux-là. Il faut qu'on trouve des solutions. Il faut aussi peut-être qu'on change notre regard. Moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'on a toujours autant de difficultés à considérer que l'immigration est pas forcément un si grand problème. Il y a encore une étude de 3 chercheurs du CNRS il y a quelques jours qui montrait que ce soit l'immigration économique ou que ce soit les demandeurs d'asile, l'impact sur l'économie des pays européens au cours des 30 dernières années, il était plutôt positif. Et donc, je crois qu'on a aussi une bataille culturelle à mener pour refaire partager avec tout le monde cette idée très simple de dire l'immigration, c'est pas négatif, ça peut même être positif.
Alors, on va rester quand même un instant sur la rencontre entre Emmanuel Macron et le pape. Un entretien de 57 minutes, c'est très précis, sans doute parce que c'est le plus long que le pape François ait accordé à un chef d'État. Le record précédent, c'était 52 minutes pour Barack Obama. Oui, ce genre de rencontre est scruté avec beaucoup d'attention. Le président de la République a ensuite été fait chanoine de Latran, comme beaucoup de ses prédécesseurs, mais pas tous. François Hollande, François Mitterrand ou encore Georges Pompidou ne l'avaient pas fait. On se souvient du discours d'Emmanuel Macron au Collège des Bernardins sur le lien abîmé entre l'Église et l'État qu'il convenait de réparer. Comment vous interprétez tout ça? Est-ce qu'Emmanuel Macron cherche à séduire finalement l'électorat catholique?
Moi, je pense qu'on peut être à la fois très attaché à la laïcité, et c'est très important, c'est le fondement de notre République aujourd'hui, et vouloir être dans le dialogue avec les religions. Donc moi, je trouve qu'il ne faut pas non plus donner trop d'importance à ce genre de rencontres qui permettent d'aborder des grands thèmes, mais qui sont pas non plus doivent pas être sujets, comme je le vois depuis quelques jours, à des polémiques, à des grandes remises en cause de la séparation entre l'État et les religions, etc. Non, je crois qu'il faut. C'est l'occasion de discuter de sujets importants. Là, les migrations. D'autres fois, ça pourra être le sujet des changements climatiques. Moi, je me rappelle très bien le rôle. Au moment de la COP21, dans les dernières secondes avant d'obtenir le consensus de tous les pays, je me rappelle très bien que quelques pays bloquaient, ne voulaient pas l'accord de Paris et qu'au dernier moment, c'est aussi la diplomatie du Vatican qui a permis d'aller vers le consensus autour de l'accord de Paris. Donc je veux dire, c'est du dialogue, c'est important. Il ne faut pas non plus donner trop de signification, soit à la durée de l'entretien, soit à telle ou telle distinction.
Mais pour dissiper finalement les soupçons ou les malentendus sur son rapport à la laïcité, à la religion, est-ce qu'il ne serait pas temps qu'Emmanuel Macron prononce enfin ce grand discours sur la laïcité qu'on attend toujours?
Mais je crois qu'il va arriver dans les prochaines
Oui, ça fait
semaines,
un
de ce que
moment
j'ai
qu'on nous dit
compris.
ça.
Voilà, donc voilà, je pense que sur ce sujet-là, comme sur tous les autres, il donnera sa vision Je crois que c'est quelque chose de très clair avec lui, c'est que il a, sur tous les sujets, économiques, sociaux, sur le climat, sur les quartiers, etc., il a donné à chaque fois une vision, et donc elle viendra prochainement sur la laïcité.
Le Sénat a adopté hier en première lecture le projet de loi asile-immigration. À l'Assemblée nationale, pour votre part, vous étiez abstenu lors du vote du texte. Le projet a été durci par la commission des lois. Est-ce que vous croyez que le gouvernement va vouloir le ramener à sa version initiale ou que finalement il pourrait s'accommoder d'une partie de ce renforcement du projet de loi?
Ah non, je crois qu'on peut absolument pas s'accommoder de ce durcissement vraiment très très fort imposé par le Sénat avec des dispositifs, par exemple sur la suppression de l'aide médicale ou des choses comme ça qui sont vraiment qui n'ont aucun sens et qui sont là encore une fois pour pénaliser sans regarder du tout les enjeux de santé publique qui sont derrière. Donc non, on ne peut en rien s'accommoder de ce durcissement très important fait par les sénateurs. Il va falloir qu'on fasse notre travail à l'Assemblée nationale de revenir à une version du texte plus acceptable.
L'examen du projet de réforme constitutionnelle a commencé hier en commission à l'Assemblée. C'est un vaste ensemble qui comporte trois grands volets. Les mesures les plus emblématiques sont l'accélération de la procédure parlementaire d'adoption des textes, la réduction de 30% du nombre de parlementaires, la limitation à trois mandats identiques dans le temps et l'introduction de 15% de proportionnel aux législatives. Pour la présidente du groupe PS à l'Assemblée, la majorité, je la cite, la majorité et le président de la République souhaitent affaiblir le Parlement. C'est leur fil rouge dans toute cette réforme. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de vrai? Est-ce qu'on ne souhaite pas un Parlement plus docile?
Non, mais pas du tout. Je crois qu'elle se trompe vraiment dans son analyse. Moi, je ne vois pas comment elle peut se satisfaire du mode de fonctionnement actuel de l'Assemblée nationale, où on peut étudier 6 fois de suite le même amendement, où il y a tout un tas de dispositifs qui empêchent d'avoir un débat parlementaire le plus efficace possible. On peut beaucoup mieux travailler à l'Assemblée nationale, et c'est le sens de cette réforme, et c'est le sens aussi avec l'introduction d'une dose proportionnelle, notamment d'arriver à ce que les Français soient mieux représentés à l'Assemblée nationale et commencer à réconcilier les Français avec la politique. Je trouve ça dommage que les uns et les autres fassent un peu de politique politicienne autour de tout ça, parce que ce sont des grands enjeux.
Dans le cadre de cette réforme, la défense de l'environnement sera mentionnée dès l'article 1er de la Constitution. Est-ce qu'on peut dire que c'est une victoire de Nicolas Hulot, dont je rappelle que vous êtes très proche?
Bien sûr que c'est une victoire pour Nicolas Hulot. C'est quelque chose de très important, une idée qui lui tenait à cœur et qui tient à cœur aux députés de la majorité. Mais dans l'article 1 de la Constitution, celui qui fonde notre République, eh bien effectivement le respect de l'environnement, la lutte contre les réchauffements climatiques, le respect de la biodiversité, ce sont des enjeux majeurs, c'est très bien de les mettre au cœur de notre Constitution. Donc si jamais c'est confirmé, on l'étudie ce matin en commission, et après il faudra arriver aussi à la même rédaction au Sénat, eh bien ce serait une grande avancée pour l'écologie.
C'est compliqué pour Nicolas Hulot au gouvernement, non? Le ministre de l'Environnement est écologiste, mais son environnement ne l'est pas tellement, lui.
Mais l'écologie, c'est toujours compliqué, encore plus quand elle est au pouvoir. Mais je crois qu'il a des victoires très importantes ces dernières semaines, qu'il en aura d'autres dans les prochaines semaines.
Mais aussi des échecs et aussi des couleuvres. Mais le glyphosate, par exemple.
Les glyphosates, c'est pas vraiment une couleuvre. C'est même pas du tout une couleuvre. Regardez, avec Stéphane Travert, vendredi dernier, ils ont lancé la mobilisation générale avec des mesures jamais vues en France pour sortir du glyphosate en 3 ans. Toutes les filières vont devoir donner d'ici 3 semaines, leurs engagements de réduction, un centre de ressources pour les agriculteurs va être mis en place. On va suivre mois après mois toutes les quantités vendues de glyphosate. On se met sur la route de quitter le glyphosate en 3 ans. On est le seul pays d'Europe à le faire. Donc c'est tout sauf une défaite pour Nicolas Hulot. Au contraire, les sujets, ils avancent. Même quand c'est compliqué, c'est souvent pas simple. On avance, le bilan, il faut le faire dans les prochaines semaines.
La question de son maintien au gouvernement est tranchée?
Non, je pense qu'il l'a dit, il le fera cet été. Oui. Et je crois qu'il y a beaucoup d'arguments et de victoires pour qu'il puisse rester au gouvernement. C'est très important.
Merci Mathieu Orphelin. Bonne journée.
Bonne journée à vous.